Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. J'aimerais au nom du Baudois exprimer mes remerciements et le sentiment d'honneur que nous éprouvons d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur le Président du Conseil d'État, Pierre-Yves Maillard, que je remercie vraiment vivement d'avoir accepté notre invitation. Nous en sommes très honorés et très vivement, je ne trouve plus mon mot, mais ça ne fait rien, remerciant. Voilà, donc, faute du mot, bon mot français. Voilà. Reconnaissant, voilà, il ne m'est pas venu, je ne sais pas pourquoi. Bien, alors, la séance va se dérouler de cette manière. Nous allons donner successivement la parole à Pierre-Yves Maillard et Benoît Gaillard. Donc, d'abord Pierre-Yves Maillard, puis Benoît Gaillard. Chacun s'exprimera environ 10-12 minutes. Autour de cette question, philosophie politique, philosophie action politique, quelle est la pertinence de ce qu'ils ont appris, emmagasiné dans leur parcours philosophique, dans leur action politique. Puis, je ferai je serai en quelque sorte le premier préopinant, je poserai une question, ou plutôt je ferai des remarques, qui appellera de leur part une petite réponse, enfin une réponse, disons, et ensuite, ce sera donc à vous, dans la salle, à intervenir, poser des questions, venir questionner nos orateurs. Voilà donc pour le programme. L'idée est de parvenir à faire en sorte qu'au bout d'une demi-heure, j'ai la montre sous les yeux, je vais vraiment m'efforcer de m'y tenir, la parole puisse être donnée à la salle de façon à ce que une discussion d'une dimension raisonnable puisse avoir lieu, puisqu'il est impératif que nous terminions à 14h30. Nous n'avons absolument pas de marge de manœuvre de ce côté-là. Nous devons avoir terminé à 14h30. Nous ne pouvons pas prolonger cette séance au-delà. Voilà. Ça, c'est un petit peu le cadre. La raison, c'est que l'atelier suivant est une classe de philosophie avec les enfants, que la salle doit être réorganisée pour cet événement. La salle ne peut pas être disposée de cette manière pour ce moment de démonstration de philosophie avec les enfants. Et donc, pour ne pas mettre en retard cette classe, il nous est impératif d'avoir environ les 10 minutes de battement entre les deux événements. Voilà.
C'est à cause des enfants.
Non, oui, bien sûr. C'est grâce aux enfants, c'est grâce à la nécessité dans laquelle nous sommes ensuite. Bien. Donc, je donne tout de suite maintenant la parole à Pierre-Yves Maillard et lui passe donc le micro. Monsieur Maillard, c'est à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis dit pour une fois, je pourrais parler longtemps. Alors, du coup, je me retrouve dans un format connu, mais enfin, c'est toujours quand même un plaisir de parler avec vous un peu de ces liens entre philosophie et politique. Alors, on m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai retenu de la formation philosophique pour mon action politique, et j'y ai réfléchi un peu, et le premier mouvement, ça a été de me dire qu'en réalité, au fond, les sociétés ou les hommes politiques qui ont considéré qu'ils appliquaient dans le monde de l'action politique une pensée et une philosophie n'ont pas été probablement ceux qui ont laissé le meilleur souvenir dans la société, et ni dans la philosophie d'ailleurs. Donc au fond, il y aurait, un premier risque à écarter, c'est de considérer que dans le monde de la philosophie se conçoit l'organisation type de la société, qu'ensuite des hommes politiques appliqueraient de manière scrupuleuse. C'est probablement comme ça que Marx voyait les choses et qu'un certain nombre de marxistes voyaient les choses. Et encore une fois, je ne pense pas que ça ait été des expériences les plus réussies dans l'histoire de nos sociétés. Probablement qu'aujourd'hui, ce mouvement-là a perdu suffisamment d'influence pour que le risque qu'on y revienne soit assez éteint. Mais il faut se méfier. Je pense aujourd'hui que probablement ceux qui ont ce même fantasme, au fond, de voir l'action politique être le prolongement de la pensée philosophique sont plutôt à chercher dans les mouvements religieux, toutes les dérives et sectes qui tournent autour de l'idée religieuse. Et c'est probablement plutôt là aujourd'hui que le risque se trouve. Donc, à mon avis, ce développement-là est assez risqué. Je pense qu'il faut, je prêcherai plutôt pour une forme d'autonomie des deux mondes. Mais pourtant, j'ai retenu quelque chose de la philosophie dans ma vie politique, dans ma pratique politique. C'est une formation qui m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Alors je me suis demandé quoi exactement. En réalité, j'ai eu une formation assez classique, au fond, à l'Université de Lausanne, à la section de philo, où j'avais la chance d'avoir des professeurs qui ont véritablement eu à cœur de nous apprendre les grands textes et les grands auteurs, dont chacun d'entre eux probablement avait l'idée que il fallait que sa pensée se prolonge dans le champ de l'action politique, bon, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces grands penseurs, avant de poser sa pensée, avant d'avancer ses thèses, démolit les précédents. C'est toujours comme ça que le mouvement se fait. Il s'agit d'abord de faire une forme de table rase de ce qui a été pensé auparavant, mais pour faire table rase, il faut travailler sur ces textes, il faut les déconstruire, il faut les mettre en cause, si ce n'est pas mettre en pièces. Et donc c'est un travail de critique. Ça commence d'abord par un travail de critique. Critique fondamentale, Kant c'est très classique, c'est très connu, mais tous, Descartes, Leibniz, tous ont véritablement commencé par une critique de la pensée dite dominante ou des concepts sûrs qui semblaient les précéder. Puis ensuite, ils développent et ils déroulent leur pensée. Et en faisant une histoire de la philo, au fond, ce que j'ai vraiment retenu, la discipline qui m'aide aujourd'hui dans le champ politique, c'est vraiment cette phase critique. Cette phase qui commence à prendre la pensée, une pensée construite, une pensée élaborée, pour la travailler et essayer d'en voir les contradictions, les difficultés, même si évidemment chacune des critiques est discutable en elle-même. Donc c'est vraiment, je crois, ça, si je dois retenir, pour aller vite à l'essentiel, ce que je dois retenir de ma formation de philosophe, c'est vraiment cette capacité à ne pas accepter ou à ne pas recevoir un discours, une pensée aussi élaborée soit-il, sans la tester par un appareil de réflexion, de critique qui soit solide. Et je peux vous dire qu'en politique, c'est vraiment une arme extrêmement nécessaire, parce que justement, en politique, les intérêts, les grands intérêts, qui sont évidemment à l'œuvre dans le champ politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de pouvoir qui ne soit pas travaillé par les grands intérêts, économiques, mais pas seulement, toute une série de grands intérêts s'activent pour influencer le pouvoir et pour l'occuper. Évidemment, chaque grand intérêt organise son travail de lobbyisme ou d'influence en essayant d'asséner, non pas en disant pas simplement j'aimerais pouvoir avoir davantage de rendement sur mes capitaux investis, mais ils vont développer des approches qui se présentent comme la vérité, comme la science. C'est très très vrai avec le développement de ce qu'on appelle la science économique, comme si au fond il y avait une sorte de corpus d'idées et de méthodes qui étaient au fond une fois pour toutes établies. Et c'est ce qu'on a beaucoup connu ces 20 dernières années. Je pense par exemple faire passer l'idée que la mise en concurrence dans tous les domaines, de tous contre tous, est une sorte d'indépassable, d'horizon indépassable de l'organisation sociale et économique. C'est véritablement, ça nous a été asséné avec la force du dogme, il faut bien le dire. Et face à ça, avoir la capacité et la formation critique que m'a donné ma formation de philosophe, ça a été très très utile. Alors, est-ce qu'il y a vraiment, disons, voilà, c'est ce que je retiendrai de plus important. On me dira, mais alors, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun contenu, aucun élément de contenu que la philosophie t'a laissé? Je dirais, pour la politique, probablement pas, et probablement que c'est heureux, que dans le champ de l'action politique, il faut que les contenus de ce qu'on veut faire, la société, soit laissé au fond à une autre sphère, au fond qui relève plutôt de la place laissée à des sentiments d'indignation, de la place laissée à la défense d'une couche sociale. Je crois qu'il n'y a pas de rejet à avoir face à l'idée qu'au fond je représente, ou que quelqu'un qui s'engage en politique représente une catégorie sociale, socio-économique, qui s'identifie comme telle, et qui ensuite essaye, dans le champ politique, de défendre ses intérêts, au fond, sans avoir forcément à faire que ses propres intérêts soient universels. Ça, c'est l'une des... Donc, je dirais, il y a assez peu de contenu. Il y a quelques éléments de contenu, quand même, que j'ai retenus, qui sont pas d'ordre... qui ont l'air d'être d'ordre éthique, mais qu'ils sont assez peu, au fond, parce qu'ils sont très peu élaborés, très peu développés. D'ailleurs, je me méfie toujours d'une éthique trop bavarde en quelque sorte, ou trop moralisatrice. Mais par contre, il y a quelques éléments, quelques phrases comme ça que je retiens et qui m'ont beaucoup inspiré. C'est deux phrases, au fond, c'est l'une d'Edith Wittgenstein sur lequel j'ai fait mon mémoire, qui dit à peu près, parce que je ne suis pas très fort en citation, mais qui dit à peu près, qui pose la question, je crois que c'est dans De la certitude, qu'est-ce qui donne son prix à une pensée, qu'est-ce qui donne sa valeur à une pensée. Et il dit simplement, de manière très sommaire, le courage, je crois. C'est-à-dire que c'est pas la complexité, c'est pas la sophistication, c'est le courage d'une pensée. Ça, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, et au fond, j'essaye d'en retenir que, effectivement, une pensée qui provoque, qui déstabilise, mais qui s'assume et qui se défend, qui se tient, c'est probablement les pensées les plus méritantes, si tant est qu'il faut donner des prix de mérite aux pensées. Puis une autre phrase qui m'a beaucoup marqué dans mon action politique et que je retiens, que je répète souvent aux jeunes qui s'engagent en politique. Je leur cite une phrase ou un précepte d'Aristote, qui est dans De la rhétorique, au fond, quand Aristote explique comment faire un discours convaincant, comment convaincre. Alors, il donne toute une série de méthodes sur la façon d'organiser son discours, d'organiser son raisonnement. Mais à la fin, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, au fond, à la fin, de toute façon, la plus convaincante des preuves, c'est l'éthos de l'orateur. C'est l'image morale de l'orateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas qu'il se présente comme un être vertueux qui présente, au fond, une sorte de tartuffe. Ça ne marcherait pas. En politique, l'éthos de l'orateur ne peut être que la sédimentation sur le long terme d'un certain nombre de comportements où les gens qui vous scrutent, qui vous regardent quand même dans toute une série de situations, peuvent constater qu'à long terme, votre parole est crédible. Je dis souvent aux hommes et aux femmes politiques, vous n'avez qu'un seul bien en réalité, c'est la crédibilité de votre parole. Quand vous dites quelque chose, si vous êtes cru ou si vous n'êtes pas cru, c'est ça qui fait la différence. Vous pouvez le dire bien, vous pouvez être un brillant orateur, un excellent technicien du débat, si vous ne dégagez pas de façon crédible, de la sincérité, c'est-à-dire si vous n'avez pas un éthos qui, au fond, convainc, eh bien, vous ne passez pas. Et ça ne s'invente pas, ça se construit. Ça veut donc dire que j'invite mes collègues qui font de la politique à éviter de se contredire, à éviter de suivre le vent, à éviter de dire avant une élection dans un exécutif, je ferai ça, et puis à peine être élu, faire le contraire, tout en disant que ça fait partie du job. Toutes ces malheureuses dérives qui font, où on fait croire qu'il y a de l'astuce, comme de faire une campagne en annonçant toute une série de slogans, de réformes, puis après dire une fois au pouvoir, mais enfin, vous y avez cru, mais enfin, comment avez-vous pu, mais vous savez bien, tes promesses sont... Enfin, toute cette espèce de mauvaises habitudes qu'ont un certain nombre de femmes politiques me paraissent leur nuire à eux, d'abord, et à la politique en général, et à la démocratie ensuite. Voilà ce que je peux dire de manière assez sommaire, j'en suis conscient, mais résumé en tout cas des liens que je conçois entre philosophie et politique.
Merci. Merci beaucoup, M. Maillard, pour ce propos qui est, je le souligne, resté dans les temps. Bien, maintenant, Benoît, c'est à toi.
Merci beaucoup, bonjour. Bon, c'est évidemment un contexte un peu intimidant que de s'exprimer juste après Pierre-Yves Maillard, qui est, probablement pour mon début de parcours modeste, de parcours politique, figure aussi importante que l'a été la philosophie par ailleurs. Donc c'est bien la première fois que ça m'arrive, et j'avoue que j'avais pas tout à fait anticipé l'émotion que ça me susciterait. Mais enfin, c'est égal, je vais quand même essayer de faire illusion. Pour moi, la question du lien entre philosophie et engagement politique ou pratique politique, c'est avant tout une question difficile, et c'est une histoire pour moi de difficultés et d'écueils. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que j'ai passé mon temps durant mon parcours universitaire qui n'est pas si lointain et durant les quelques années qui m'en séparent déjà, à essayer de péniblement raccrocher, rabouter, comme on dit, rapondre des choses qui en réalité étaient relativement éloignées les unes des autres. Certaines des raisons viennent d'être données par Pierre-Yves Maillard, d'autres j'essaierai de les expliquer. Donc, lorsque je me suis lancé dans cet exercice de réflexion pour dire quelque chose aujourd'hui, voilà, j'ai ressenti finalement, après coup, encore une fois, tous ces moments de difficulté à me dire, mais finalement, quelle est finalement cette mystérieuse connexion que beaucoup de gens semblent trouver naturelle. Ils me disent, ben voilà, tu fais de la philosophie, tu t'engages en politique. Finalement, c'est une des voies classiques. Et j'ai jamais compris. Enfin, j'ai toujours compris qu'on puisse me le dire, mais enfin, j'ai jamais ressenti qu'effectivement, il y avait là une logique, une évidence. Et surtout jamais de facilité. J'aimerais vous proposer, en guise d'introduction, de raconter ce que j'ai décidé d'appeler la parabole lausannoise du 1er mai. C'est le 1er mai 2013 que ça m'est apparu. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous n'ignorez pas que le 1er mai se tient à Lausanne comme partout ailleurs dans le monde, en souvenir d'un mouvement de grève à Chicago à la fin du 19e siècle qui avait débouché sur des morts parmi les grévistes, une manifestation des organisations de travailleurs, des partis de gauche, à laquelle, évidemment, depuis que j'ai commencé à m'engager, je prends part. Et quelle n'a pas été ma surprise le 1er mai passé, autour de, je ne sais plus, midi, 1h de l'après-midi, regardant mes emails une dernière fois avant de me rendre au début de la manifestation, de constater que je recevais, parce que je figure encore sur quelques listes de diffusion de l'Université de Lausanne et particulièrement de la section de philosophie, que je recevais une invitation pour une conférence qui se tenait le soir même, à l'heure exacte de la manifestation, à l'université, dans un amphithéâtre, sur la justice, les différents concepts de justice, comment les appliquer, comment les penser, etc. Et j'ai trouvé que là, j'avais une illustration parfaite de cette distance, de cette difficulté que visiblement j'étais pas le seul à ressentir. Je me dirigeais vers une manifestation dont le slogan principal était pour des salaires plus justes, et je recevais une invitation au même moment pour une conférence à l'université sur la justice. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui relevait de la parabole et que je voulais vous raconter aujourd'hui parce que ça illustre un peu ce malaise, et finalement ça montre que dans la réalité cette séparation est aussi bel et bien vécue. Il y a peu de gens en philosophie qui sont très engagés en politique, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne suivent pas la politique, et inversement, je crois qu'il y a relativement peu de gens en politique qui ont un parcours de philosophie, donc ça me rassurait dans un sens aussi de voir que ces difficultés n'étaient pas seulement la mienne. Moi, j'ai le souvenir de mes études de philosophie. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est ce philosophe qui parlait de la philosophie comme d'une entreprise de création de concepts. J'ai longtemps cru qu'en allant dans la politique, j'irais dans une entreprise d'application de concepts. Qu'une fois qu'on avait bien compris comment fonctionnait le marxisme dans ses différentes variantes, comment la social-démocratie l'avait amélioré, amendé, rendu viable, construit de façon durable, et bien finalement il fallait se rendre dans le réel, comme on irait visiter quelqu'un, et puis mettre tout ça en application. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à ressentir ces difficultés dont je parlais au départ. J'en suis arrivé à la conclusion, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, qu'en réalité la politique, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas toujours de l'extérieur, est bien plus une entreprise de création d'actions, pour le dire comme ça, où on doit créer sans cesse de nouvelles actions qui sont parfois elles-mêmes leurs propres principes et qui ne tirent pas leur légitimité, en tout cas pas toujours, de bases théoriques qu'on aurait par ailleurs acceptées, d'analyse, de grilles d'analyse qu'on aurait a priori considérées comme justes, exactes, ou fondées. Et de ce point de vue-là, disons, ça contredit à l'inverse aussi l'analyse de l'action politique qu'on a tendance à faire de façon générale, qui consiste la plupart du temps aussi, en tout cas dans les cercles de gauche, à prendre finalement une action, une entreprise, une position politique, et puis à finalement la juger à l'aune de voilà, d'une sorte de corpus théorique qui peut être plus ou moins précis. Je crois qu'on connaît voilà un certain nombre de critiques, d'observateurs qui s'expriment dans des journaux ou dans des débats publics, qui aiment à regarder ce que font les hommes politiques, en particulier de gauche ou ceux qui essaient de faire dans l'action publique des choses, et puis à se dire bah voilà ce qu'il fait. Est-ce que ça correspond aux critères de la bonne gauche, du bon marxisme, de la bonne social-démocratie, où on peut imaginer que ça se passe aussi dans le camp d'en face, j'ai un peu moins d'expérience. Donc de pratiquer à partir de chaque action une sorte de montée en généralité et de se dire finalement, est-ce que cette action, si elle était appliquée à tout le monde, tout le temps, si on en faisait le principe de toute action possible, est-ce qu'elle serait conforme finalement à ces théories qu'on a préalablement acceptées? Et puis, moi, il me semble que assez rapidement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'autant certaines situations favorisait ce type d'analyse. Je crois que quand on parle de questions relatives aux fondamentales, de répartition des richesses, de l'étendue respective, de la responsabilité collective et individuelle, de choses comme ça, effectivement, assez rapidement, on peut se référer à des bases théoriques, on peut se demander finalement si une option qu'on prend est bel et bien conforme aux valeurs qu'on a l'impression d'être en train de défendre ou non. Respectivement, quelqu'un qui n'est pas à votre place peut vous le dire, parce que souvent c'est évidemment plus efficace dans ce sens-là. Mais en même temps, il me semble que la plupart des actions politiques ne sont pas de ce type-là. Elles sont soit à l'opposé complet, je vais essayer de donner éventuellement quelques exemples et j'espère que la discussion pourrait en faire sortir de nouveau, ou alors elles sont bâtardes, c'est-à-dire qu'elles peuvent dans une certaine mesure donner lieu à une analyse selon des dogmes, des théories, et puis en bonne partie elles résistent, elles échappent à ce type d'analyse, à une montée en généralité vers une analyse théorique. Pour vous proposer quelques exemples dans ce sens-là, je me retrouve confronté assez quotidiennement en tant qu'élu du Parlement de cette ville à des questions d'urbanisme, à des questions de préservation du patrimoine bâti, à des questions de coexistence dans l'espace public, des voitures, des piétons, des vélos, de différents modes de transport, mais aussi à des questions finalement de forme d'organisation. Est-ce que lorsqu'on veut mettre en place une politique publique, alors elle bien de gauche, parce que bien redistributive, imaginons, eh bien en réalité la question de savoir si pour le faire on préfère avoir une organisation très décentralisée, très centralisée, on considère que c'est de la tâche d'une collectivité publique avec uniquement des employés publics, ou qu'il vaut mieux mandater des associations, qu'il vaut mieux se baser sur ce qui existe déjà dans la société en termes de structure sociale, etc. Là, il me semble que souvent, il est beaucoup plus difficile de se fonder finalement sur des grandes options théoriques. Lorsqu'on parle à Lausanne, pour donner un exemple très local, de la façon de gérer sur le long terme le patrimoine bâti historique, on peut penser au quartier de la Cité, ça va vous paraître très terre à terre. Enfin, moi, je ne sais pas s'il est davantage de gauche de conserver des bâtiments historiques pour leur beauté, ou de temps à autre de quand même avoir de grands gestes architecturaux qui consistent à les remplacer par des bâtiments par ailleurs plus efficaces en termes énergétiques, peut-être répondant à de meilleurs critères qui permettent aussi d'installer une certaine mixité sociale. On voit que c'est complexe et que c'est toujours bâtard. Et là, c'est vraiment des questions dans lesquelles j'ai l'impression d'être dans une sorte de pure création. Pas moi personnellement, parce que c'est pas moi qui dois faire ces décisions-là. Mais lorsqu'on juge ces questions-là, il me semble qu'on est quasiment autant dans la création de nouvelles actions qui sont elles-mêmes leurs principes, c'est-à-dire qu'on inscrit dans l'action elle-même sa justification. C'est une sorte de principe ad hoc pour justifier une action, parce qu'il est quasiment impossible de faire cette montée en généralité qui permettrait de soumettre l'action A, B, C ou D dans ce domaine-là à une grille d'analyse préétabli. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, la difficulté dont je parlais tout à l'heure à reconnecter ce que la philosophie m'a apporté, ce que j'ai étudié à l'université et ce que j'essaie modestement de pratiquer dans la politique, se traduit en fait aussi par un certain plaisir, parce que je crois que cette vision qu'on a parfois un peu facile, encore une fois, de la politique comme la mise en œuvre de concepts, la mise en œuvre d'idées, tu as des idées, tu les as acquises, développées à l'université, puis maintenant tu vas en politique et tu vas mettre tout ça en œuvre, t'engager pour que les choses changent dans le sens que tu as préalablement défini par les valeurs auxquelles tu as décidé d'adhérer, etc. Ce discours-là, vous avez compris, je n'y adhère pas et j'ai de la difficulté à m'y confronter. En revanche, je trouve un plaisir à examiner des situations à chaque fois complexes, à chaque fois particulières en même temps, et à patauger un peu dans ce caractère bâtard du réel, où on est toujours à mi-chemin entre des pures valeurs et des pures situations singulière. Ça ne veut évidemment pas dire que je contredis quoi que ce soit ce qui a été dit tout à l'heure. D'ailleurs, je pourrais m'y associer complètement. Je pense que sur la façon de penser, la philosophie a été un apport extrêmement important. Mais j'aimerais, et c'est peut-être un peu gonflé de le faire ici, mais j'aimerais quand même en appeler aussi à ce que les gens qui font de la philosophie essaient parfois d'analyser, d'observer, d'approcher l'action politique sous un angle un peu différent et de précisément essayer parfois, non pas d'entrer dans notre point de vue, ça c'est un discours de politicien, vous comprenez, si vous saviez toutes les informations que moi j'ai, alors vous seriez d'accord avec moi. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est simplement de se dire, on est effectivement parfois confronté à des situations qui ne se laissent pas analyser facilement, selon forcément une ligne grise, voilà, de classe ou d'intérêt particulier. Et là, je trouve que on pourrait profiter dans notre canton, dans notre pays, de philosophes peut-être un peu plus actifs de ce point de vue-là. J'espère avoir vaguement tenu le timing.
Oui, j'allais t'arrêter. Mais bon, je vais essayer de poser ma question aussi rapidement que possible. Juste peut-être cette remarque préalable. Il me semble que s'il y a une communauté d'inspiration entre la politique et la philosophie, c'est que politique et philosophie ont pour tous deux pour objet le tout. C'est-à-dire, le premier objet de la philosophie, c'est la totalité de l'être. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là dans laquelle nous sommes et dont nous sommes ? Et la politique, de la même manière, s'adresse à la totalité de l'être ensemble que nous composons, de la collectivité humaine que nous composons. Et c'est ce qui explique, je pense, la si grande tradition de philosophie politique dans l'histoire de la philosophie politique. Celle-ci commence évidemment, disons, la plus célèbre, c'est la République de Platon, mais on pourrait citer facilement 20-30 auteurs de la tradition de la philosophie qui ont travaillé sur des questions, sur la question politique, sur la question de l'ordre du vivre ensemble, de l'être ensemble, du faire ensemble. Alors, ma question va toucher, au fond, le rapport entre ce que j'appellerais quand même l'idée socialiste, parce que malgré tout, si vous êtes tous deux membres du Parti Socialiste, c'est que vous avez été travaillé par cette idée socialiste, et le contexte actuel. L'idée socialiste, si je la résume à l'excès, évidemment c'est une caricature, vous me direz, mais je pense que c'est un résumé qui n'est pas entièrement fautif. Au fond, c'est quand même l'idée de la société des égaux. Nous sommes des égaux, nous sommes appelés à nous rapporter les uns aux autres comme des égaux et considérer l'autre comme ayant chacun exactement la même dignité que moi et moi la même dignité que les autres. Hein, donc il y a cette idée de d'arrière-plan qui travaille. Or, il me semble que la situation non révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons, il va de soi que nous sommes dans une situation non révolutionnaire, là-dessus, je pense, ne pas risquer d'être contredit, en tout cas pour l'instant, en tout cas au sens, disons, au sens où l'entendait Marx, évidemment, la situation non révolutionnaire, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire qu'il y a un certain nombre d'inégalités héritées du passé qui demeure et qui opère sous la forme de rapports de domination, classiquement ce qu'on appelle les rapports de classe. Et ces rapports de classe existent depuis, en tout cas, sinon, en tout cas, enfin, ils existaient avant le capitalisme les a perpétués sous une autre forme. Or, nous nous trouvons depuis les années, disons, de libéralisation, de déréglementation, de dérégulation, pour utiliser le terme anglais, impulsé par Mme Thatcher et M. Ronald Reagan, dans un mouvement qui vise effectivement à diminuer l'impact, le rôle, la place du rôle de l'agent public, l'État, et donner donc de plus en plus de place à l'acteur privé. Et l'acteur privé, qui est le plus puissant, est évidemment, nous le savons tous, et ça renvoie aux grands intérêts que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est le capital. Et le capital, au fond, on lui a lâché la bride, et la bride lâchée, il se fait de plus en plus dominateur, expropriateur, appropriateur, et ceci à l'échelle de la planète. Il n'est pas ici besoin de faire allusion à aux situations particulièrement catastrophiques comme celle de la Grèce, et il y en aurait évidemment de multiples autres à évoquer. Donc, ma question serait la suivante. En tant qu'on a cette idée socialiste de société des égaux, autant que l'idée socialiste a quand même se raccroche historiquement à, je dirais, la compréhension qu'a Marx des rapports de domination impulsés par le capital, comment est-ce qu'on navigue en tant que socialiste dans une situation non révolutionnaire ? Et vraiment, cette question s'adresse aussi bien à Pierre-Yves Maillard qu'à Benoît Gaillard. Est-ce que nous sommes condamnés à, disons, un travail de résistance, au fond, un travail négatif ou un travail de critique des grands intérêts ? Ou est-ce que nous pouvons, donc juste un rôle, disons, essayer de freiner cette espèce de conquête vers la vente du capital, ou est-ce que nous pouvons avoir un rôle plus actif de promotion de quelque chose comme une société d'ego, ou bien cet idéal doit-il être décidément rangé définitivement au rang des accessoires et des ornements du passé. Voilà, je voudrais vous entendre sur cette question, aussi bien Pierre-Yves Maillard que Benoît Gaillard, et ensuite, la parole sera à vous.
Tout ça en 2 minutes.
Alors,
après avoir liquidé les liens de philosophie et politique en 12 minutes, on va parler du socialisme en 3.
C'est l'efficience.
Oui, alors vraiment, ça, même à Forum, on nous demande pas, mais non, j'y vais. Non, pas du tout. C'est une belle question. D'abord, ça m'intéresse parce que vous avez parlé de la résistance. Ma première campagne en 97, j'avais opté pour un slogan qui s'appelait « Résister, reconstruire ». Et c'est exactement ça. Je crois qu'on a eu une phase dans les années 90 vraiment de résistance. Je prends un exemple. Dans notre pays, nous avons, je crois, pu résister au mouvement de libéralisation et de privatisation mieux qu'ailleurs, notamment parce que nous avons fait un référendum sur le marché de l'électricité, un aspect sectoriel, mais qui a, alors qu'on était minoritaire au sein même du Parti Socialiste. Donc cette loi a été votée par tous les partis de droite et par la majorité du Parti Socialiste. Elle était proposée par un Conseil fédéral socialiste. Et une minorité de socialistes ont réussi à imposer un vote populaire en passant par les syndicats, et 60% à peu près de la population, 56%, a voté non. Ça a bloqué un agenda complet. Il y avait derrière la privatisation des banques cantonales, d'ailleurs il y a aussi eu le vote là-dessus, la séparation entre rail et infrastructure, entre transport et infrastructure dans les chemins de fer, la privatisation de Swisscom, la privatisation de la Poste, toutes choses qui ont été faites ailleurs et qui ont été complètement bloquées par ce vote populaire. On était là, à ce moment-là, dans une phase vraiment de résistance, et je crois que c'est tout à fait juste. Il y a des moments de l'histoire où on peut progresser, puis il y a des moments dans l'histoire où il faut résister. Cela étant, là aussi, j'aimerais mettre en garde contre une idée reçue. Si on regarde réellement, prenons notre pays, du point de vue, par exemple, de la protection sociale, je ne crois pas qu'on ait beaucoup reculé en Suisse. Je prends l'exemple, par exemple, en partant du plus bas. Le filet social abordable pour ceux qui n'ont plus rien. Qui ne sont pas éligibles pour l'assurance chômage, pas éligibles pour l'assurance invalidité. Ce filet social-là, il donne aujourd'hui dans notre pays, en gros, pour une personne seule, l'équivalent d'un salaire brut de 3 200 francs bruts, si vous déclinez la couverture d'assurance maladie complète, 1110 francs pour vivre, à peu près 800 francs, 750 francs de loyer, c'est des conditions que vous retrouvez nulle part ailleurs, et c'est un droit qu'on obtient à 18 ans et qu'on garde jusqu'à 65 ans sans dégressivité et quasiment sans conditions. On essaie de pousser un peu à la réinsertion. Et ça a été une conquête petit à petit au cours des années 90, parce que je peux vous dire qu'au début des années 90, l'aide sociale, c'était autre chose. C'était une aide complètement éclatée, que les communes assuraient, sans harmonisation des critères. Aujourd'hui, on a des critères nationaux de l'aide sociale. C'est juste pour donner un exemple que la protection sociale, dans ce domaine-là, s'est plutôt renforcée, en tout cas dans notre pays, dans quelques autres pays également. Du point de vue mondial, on a quand même, je crois, aujourd'hui, 20 ans après, probablement, gagner en espérance de vie et gagner en espérance de vie de qualité. Et ça en vient à la question de la révolution. Je suis de l'avis que les révolutions sont surtout nécessaires contre des dictatures. C'est d'ailleurs la plupart du temps, les grandes révolutions auxquelles on fait allusion, la plupart du temps sont des révolutions faites contre des dictatures, comme la monarchie en 1789, contre le tsarisme en 17. Sans parler des révolutions qui ont été faites ou tentées pour imposer la démocratie tout au long du 19e siècle en France. Et là, il y a, je crois, une divergence entre justement les socialistes et puis d'autres formes de mouvements à gauche qui considèrent que même quand on est en démocratie, il faut encore un agenda révolutionnaire. Jaurès a parcouru l'Allemagne tout au long vers la fin du 19e siècle, et il a parcouru l'Allemagne pour aller voir si la prévision de Engels se concrétisait. Engels avait parcouru l'Allemagne dans les débuts de la deuxième moitié du 19e en disant, en gros, le prolétariat allemand est dans une situation catastrophique de paupérisation, il y a une prolétarisation de la petite bourgeoisie, donc en gros les idées marxistes étant certaines, dans 10 ans, on est dans une société socialiste en Allemagne, puisqu'au fond, plus les choses se dégradent, plus le socialisme s'approche. C'était un peu ça, je résume à grands traits, mais en gros, c'était ça, au fond. Le capitalisme érode les protections économiques anciennes, il prolétarise toute une série de couches de la population, jusqu'à un point où il y aura la bascule, où ces couches précarisées, prolétarisées, voudront basculer tout le bazar. La couche des dominants sera tellement étroite qu'elle n'aura plus les moyens de résister. Jaurès a fait le parcours pour voir si, effectivement, après cette phase de paupérisation, on en était au socialisme. Il constate que ça ne s'est pas paupérisé, effectivement, il y a eu, à cause de la paupérisation, une prise de conscience du prolétariat qui s'est organisée dans un parti. Mais ce parti, justement, a eu des succès. Il a eu des succès qui ont amélioré la condition du prolétariat en Allemagne à la fin du 19e siècle et qui ont donc, de fait, rendu la conquête démocratique des avancées sociales suffisamment convaincante pour qu'on n'ait pas s'inscrire dans un agenda révolutionnaire. Et moi, je suis de cet avis. Je pense que dans un système démocratique, qui est souvent lui-même le fruit de la conquête de la gauche, dans un système démocratique, il faut utiliser les outils démocratiques. Ils ne vont pas toujours aussi vite qu'on voudrait. Ils sont lents, ils sont compliqués. Les majorités ne sont pas toujours là. Ben voilà, c'est la vie démocratique. On se bat à l'intérieur de ce système. Et pour vous donner quelques modèles de réussite locaux, je suis arrivé au Conseil d'État en 2004. Il y avait environ 200 millions, 205, je l'ai dit entre nous, pas que on m'accuse d'avoir fait trop de social, mais quand même, en moins de 10 ans, on a doublé à peu près, on est passé de 250 millions à plus de 400 millions de dépenses d'allocations familiales chaque année. Les subsides de la malle étaient descendus, les subsides pour aider à l'assurance maladie étaient descendus à 250, 260 millions. On est aujourd'hui à 460 millions. Rien que sur ces deux régimes, c'est près d'un demi-milliard de plus chaque année en 8 ans. Qui vont dans la poche des gens, normalement, en principe, plutôt démunis. Donc, on a probablement bien protégé, peut-être même amélioré, le pouvoir d'achat des 20-30% de la population qui était en difficulté. Par contre, ce qui se passe, c'est que les gens très riches, eux, continuent de croître à un rythme beaucoup plus élevé. Donc, on ne réduit pas forcément les inégalités, mais on donne quand même aux plus modestes des chances de vivre une vie normale, d'avoir pour leurs enfants des projets meilleurs qu'il y a 10 ans. Pour moi, ça me suffit. Ça ne me suffit pas. Mais ça suffit à donner du sens à l'action que je mets, parce que, et c'est ça mon avis en politique qui compte, c'est ça qui fait la différence par rapport à ceux qui croient qu'aussi longtemps qu'on n'est pas dans une phase révolutionnaire, il faut se retirer dans une tour d'ivoire pour essayer de penser le monde. Je pense qu'à tout moment de l'histoire, il y a de la place pour de l'action, et pour l'action qui finalement a des résultats, si elle est vraiment menée avec conséquence et si elle est menée dans un cadre démocratique.
Bien. C'est bon ? Tu es satisfait de la réponse. Donc, dans ce cas-là, la discussion est ouverte. Donc, Michel en premier, Christophe en deuxième. Michel, c'est à toi.
Oui, moi, j'ai trouvé, vraiment, pour revenir à la question de la philosophie par rapport à l'action politique, j'ai trouvé ce qu'a dit Benoît très, très intéressant sur l'idée d'une création par chaque action de son propre concept, de sa propre légitimité, au moment où on agit. Et alors là, moi, je me pose la question de savoir, et c'est bien ce que tu disais par rappel du côté des philosophes qui en parlent, mais comment ça se passe du côté des politiciens, comment peut s'instaurer quelque chose comme une mémoire de ces actions, une mise en débat ensuite, et pour pérenniser en quelque sorte la réflexion sur ces créations effectives qui ont eu lieu. Et par rapport à ça, là je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais c'est pas nouveau, faire profiter justement du potentiel révolutionnaire, oui, de chaque action. Mais pour ça, il faut y croire, enfin, il faut pouvoir de conceptualiser l'action qu'on a faite comme potentiellement révolutionnaire.
Ouais, bon, c'est pas facile comme question. Non, mais finalement, je fais. Si j'avais dû ajouter quelque chose tout à l'heure, et ça répondra partiellement parce que je suis pas sûr d'avoir quelque chose de mieux à dire. Hugues nous demandait finalement quid de l'idée socialiste quand on est socialiste dans un monde réel, capitaliste, qui nous est pas favorable, etc. Alors, sans aller jusqu'au bon mot d'Helmut Schmidt qui disait que quand on a des visions, il faut aller chez le médecin. Donc quand on a la vision d'idées socialistes, on est plutôt à mettre à l'asile.
C'est Jacques qui est là.
Je dirais qu'en revanche, et c'est un début de réponse à ce qu'a dit Michel, là où peut-être on sort d'un 20e siècle où on a eu tendance à fusionner de façon systématique le progrès social et le progrès tout court, ou le changement, qui nous a amené finalement à voir, lorsqu'on est de gauche, une certaine difficulté parfois à considérer que c'était peut-être mieux avant. Pierre Maillard vient nous donner des exemples. Il y a des points sur lesquels il faut être défensif, parce que si on ne l'est pas, eh ben, ce sera pire après. Mais il n'est pas facile de nos jours de se dire que finalement, peut-être qu'on vivait quand même mieux dans les années 80. C'est un discours que les gens de gauche ne tiendraient pas volontiers. Et de ce point de vue-là, une des choses sur lesquelles je pourrais peut-être répondre, c'est que je pense qu'on doit essayer effectivement d'inverser un petit peu cette tendance généralisée au progressisme de la gauche, qui consiste à dire finalement... agissons, allons en avant, on finira toujours finalement par... Et on fusionne un peu la vision de Marx, un peu téléologique, qui disait finalement la nature même des rapports de classe fait qu'on s'approchera mécaniquement un peu du socialisme, et puis le progressisme plus républicain qui consistait à étendre les droits, etc. Et donc je pense que parfois on doit un petit peu suspendre cette logique-là, se dire que... en réalité, on a besoin de structures, peut-être même parfois de revenir à des structures un peu plus anciennes, des structures de communautés relativement locales. De ce point de vue-là, je suis un démondialisateur assez fervent. Et donc, je pense que c'est une des conditions pour répondre à ta question, parce que je ne saurais pas te répondre, mais je pense qu'une des conditions pour que se crée une vraie mémoire et des vraies sphères de dialogue sur ces actions qui portent en elles éventuellement leurs propres principes, c'est de faire en sorte que les communautés dans lesquelles elles se posent continuent à exister et ne subissent pas le rouleau compresseur de la dislocation qu'elles subissent depuis des années, parce que avec la mobilité qui augmente de façon phénoménale, les gens qui ne cessent de changer de travail, qui ne cessent de changer de lieu de vie, etc. Ça a beaucoup d'avantages, c'est des gains de liberté individuelle. Mais ça détruit les communautés, en tout cas, ça les fragilise, on ne fonctionne plus de la même façon. D'une élection à l'autre, dans une ville comme Lausanne, 25% du corps électoral a changé. C'est pas grave en soi, mais ça veut dire qu'il y a déjà 25% de gens qui vont aller continuer leur mémoire ailleurs. Il va falloir apprendre aux 25% nouveaux ce qui s'est passé jusqu'ici, etc. Donc je dirais, pour pouvoir répondre à ta question, il faudrait déjà trouver moyen de reconstituer, à mon avis, des communautés politiques dont personnellement, je perçois une immense dislocation depuis quelques années par l'individualisation des moyens d'information aussi, mais par l'individualisation simplement des parcours, des déplacements, des parcours professionnels, des préférences, etc. Enfin, tous ces phénomènes qui ont été bien mieux décrits que ce que je préfère maintenant.
Christophe ?
Dans sa réponse à Kant sur le droit de mentir, Benjamin Constant dit qu'il faut, entre les principes et les réalités, il faut des idées intermédiaires. Et que le vrai domaine de l'intellectuel, c'est pas les principes, c'est les idées intermédiaires qui permettent de réconcilier les principes et la réalité. Et il le dit en particulier sur la question de savoir si un ami qui est poursuivi par la police se réfugie chez moi, est-ce que je dois dire à la police qu'il est là ou pas? Kant dit oui, dans tous les cas je dois le dire. Et Benjamin Constant dit non, il faut faire intervenir des idées intermédiaires. Donc c'est une polémique de l'époque révolutionnaire, donc ça signifiait quand même quelque chose de devoir cacher quelqu'un qui était recherché, peut-être même par la République avec tout ce qu'elle pouvait avoir de légitime. Donc c'est pas anecdotique. Hein. Et il y a un problème fondamental avec ces idées intermédiaires, c'est qu'au fond, à partir des débuts de l'époque moderne, en particulier du calvinisme, il y a un geste quand même extrêmement décisif. Calvin dit « on va pas prendre le pouvoir à Genève », il n'est pas du tout Ali Khamenei, hein. Il dit « nous ne prendrons pas le pouvoir, mais nous critiquerons ceux qu'ils prennent ». Et c'est tellement génial, cette idée, qu'en fait, il va y avoir un décrochage entre l'intellectuel et le politique, qui fait que le politique ne peut être qu'un pêcheur aux yeux de celui qu'il critique moralement. Et cette division parcourt, non seulement, évidemment, la position de l'Église, où là, même on va jusqu'à excommunier les politiques, rapport de Bonivard avec... Bonivard était en prison sous les Savoyards, mais il a aussi été en prison sous Calvin. Donc, c'est intéressant de voir quelqu'un qui est un peu comme ça, d'être en prison sous tous les régimes. Le destin, justement, de ces gens, c'est d'être sous la critique du politique. Et je me rappelle de Serge Julie, on lui demandait, mais vous n'avez jamais été tenté par le pouvoir? Il dit, non, jamais. Ce que j'aime, c'est voir ceux qui l'exercent. Et on a cette distance qui se creuse, donc ça va du pasteur au journaliste, Michel Dante, le journaliste. Et ce quatrième pouvoir, qui est celui de la critique, il semble qu'il a vraiment de la peine à se réconcilier, au fond, avec les idées intermédiaires aussi.
Alors, c'est une remarque très intéressante. Deux choses j'aimerais dire. D'abord, c'est vrai que dans le champ, depuis que je suis vraiment à plein temps engagé en politique, j'ai pas l'impression que mon cerveau est moins sollicité que quand j'étais en train de faire des études de philo, pour tout dire. Probablement que la stimulation, la capacité à inventer, à trouver des moyens de se sortir d'une situation tout en préservant justement ce que j'ai dit tout à l'heure, la volonté d'une forme de rigueur et de continuité entre le discours et l'action, ça stimule vraiment beaucoup la réflexion. Et je crois, comme l'a dit Benoît et comme l'a suggéré Michel Vanni, qu'effectivement il y a là un champ de réflexion, d'analyse, qui est peu investigué par ni la philosophie, mais encore moins la science politique, dont ça devrait pourtant être le travail. Parce que là, il y a vraiment des choses extrêmement importantes à apprendre, et c'est vrai que nous on n'a pas le temps, par exemple, à part écrire nos mémoires, qui sont souvent des mémoires de radotage, mais si elles étaient faites justement pas par les acteurs, mais que cette analyse de ce qui se passe réellement dans l'action politique était investiguée un peu plus dans le détail par ceux qui font profession de ça, je pense qu'on apprendrait, que la culture politique progresserait et qu'elle sortirait de cette espèce de comment dire, au fond, je suis un peu dur, mais la science politique, on a parfois l'impression qu'elle s'intéresse à tout sauf à la politique telle qu'elle existe réellement. Il suffit de demander à un étudiant en sciences politiques de fin de formation qui est membre des autorités locales ou nationales, et vous avez des fois des résultats tout à fait... Mais bon, ça, donc là, il y a vraiment un champ d'intérêt. Et pour donner un exemple, ce qu'il y a de fascinant dans l'histoire des grandes figures politiques, vous allez avoir aujourd'hui un des mythes, par exemple, c'est Che Guevara. Mais qu'est-ce qu'il a fait réellement qu'est-ce qu'il a... Puisque son but, c'était de changer la société, en quoi et où est-ce qu'il a réellement changé la société ? Participer à une révolution à Cuba, mais très vite, c'est son acolyte qui s'est occupé des vrais crimes. Mais il reste une sorte de mythe. Et puis, il y a des personnages complètement qui passeront probablement aux oubliettes de l'histoire. Je pense souvent à ce monsieur qui a eu quand même son ordre de gloire. Je crois qu'il a eu le prix Nobel. Mais Frédéric de Clercq. Pour moi, ça reste, je le prends comme un peu comme paradigme de ce que parfois peut être la politique. De Clercq, c'est celui qui fait carrière dans le parti qui organise et qui entretient l'apartheid, donc c'est vraiment le méchant. Il progresse, pour progresser, je pense qu'il n'a pas dû tellement donner des signes de libéralité et d'ouverture aux idées progressistes, donc il progresse jusqu'à prendre le contrôle de ce parti, il se fait élire Premier ministre, il fait sortir Mandela de prison et il lui donne le pouvoir. C'est quand même, il y a quand même peu d'exemples dans l'histoire du représentant de l'oppresseur, du pouvoir oppresseur, qui finalement fait sortir le représentant des opprimés et qui finalement lui donne la place, avec évidemment des risques pour sa vie, des risques pour son entourage, parce qu'il y a aussi ça, hein, politique. Quand c'est vraiment sérieux, on risque pas seulement sa réputation, on risque parfois sa peau. Donc il y a là un personnage extraordinaire, au sens vraiment premier, et qui mériterait des analyses un peu plus fines que justement l'idée qu'il y a les bons et puis les mauvais, puis que les bons, ils sont un petit panthéon de quelques héros romantiques. Et en politique, on est... Alors, je me compare pas à De Clercq, loin de là, mais je veux dire, on est parfois dans des situations où on sait qu'il va falloir affronter une posture, une position difficile. On va devoir pas tout, on ne pourra pas toujours dire tout ce qu'on pense, mais parce qu'on sait que derrière, au bout, ce qu'on vise, c'est l'amélioration concrète des moyens d'existence des gens dont on se sent le représentant. Et c'est pas toujours facile à vivre. Et c'est là, en cela, qu'il y a une forme de courage parfois à oser mettre les mains dans le cambouis et s'engager dans une campagne malgré toutes les une fonction exécutive malgré les difficultés. Et là, je pense qu'il y a là une matière. Pour former à la politique, une matière à investigation. Ça, c'était ma première remarque. Puis la deuxième, par rapport à ce que vous dites, sur les idées intermédiaires et ce rapport à ceux qui critiquent, ma seule remarque, elle sera beaucoup plus courte, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, entre la couche de ceux qui font science politique, la couche de ceux qui font journaliste, la couche de ceux qui font commentateurs, experts, il y a une masse d'intelligence, de savoir, de compétences, qui est dans la posture du regard sur autrui. Puis quand je vois, moi, qui on est pour essayer de manipuler un peu les engrenages et les rouages pour faire que la chose s'améliore, quand je vois la surface, disons, de ce qu'il y a dans un parti politique pour vraiment faire les choses, aller distribuer les tracts, bouger, faire changer, ben je trouve qu'il y a comme une disproportion, pour tout dire. Et là, je pense qu'effectivement, si on remettait les choses un peu en proportion, ce ne serait pas plus mal.
Vous suggérez la révolution?
Je suggère l'engagement. Je pense qu'il y a, mais à la limite, les journalistes, il y en a de moins en moins maintenant, parce que pour toute une série d'organisations.
Grâce à Chaleur, nous savons plus.
Donc, mais je pense qu'il y a effectivement, il y a eu un développement. On le sait, le nombre de gens qui accèdent à la maturité est heureusement fortement augmenté. Le nombre de gens qui accèdent à la culture aujourd'hui et à l'enseignement universitaire a augmenté. Mais quand je vois le nombre de ceux qui ayant eu la chance de recevoir ce capital, vraiment le mettre à profit dans un engagement concret et continu, parce que s'engager 5 ans, puis ensuite dire ok, non, ça va pas. Donc s'engager vraiment de manière continue, persévérante, en partant du bas pour ensuite éventuellement avoir un peu plus d'influence, c'est là, je trouve qu'il y a eu, par rapport à il y a 30 ou 40 ans, probablement une forme de disproportion. Et parfois, je dis aux gens, mais arrêtez de nous faire des rapports, y compris dans l'administration. Les réformes que j'ai pu faire dans le domaine social, c'est en disant à une équipe, parce que j'avais un personal stop, donc j'ai dit à l'équipe qui faisait des rapports sociaux depuis des années, j'ai dit, les amis, maintenant, les rapports, ça, on va arrêter, on va faire un moratoire sur les rapports, puis une ou deux des belles idées que vous avez eues dans vos rapports, on va essayer de les faire. Et donc, vous allez descendre les services, j'ai mis une unité de chercheurs dans le service, pour mettre en œuvre, c'était le projet Forjade de formation des jeunes à l'aide sociale pour les orienter vers l'apprentissage. C'est maintenant 1500 jeunes qui sont devenus des apprentis alors qu'ils étaient des assistés sociaux. Et c'est ce mouvement-là vers l'action qui, à mon avis, devrait être un peu plus stimulé dans les hautes écoles, notamment.
Vladimir.
J'ai une question pour M. Maillard de Noguer, mais aussi pour Voilà, parce qu'il semble, on a cette idée d'une pensée qui irait vers l'action, qui naîtrait dans l'action, qui serait inventée dans chaque action, etc. Et puis qu'il y aurait à faire avec toute une complexité, puis on ne pourrait pas partir d'une généralité, puisqu'on se heurterait, on se proposerait. Moi, la question que je me pose, c'est si on avait cet impératif de pensée toujours singulière en liaison dans une action précise, en fait, le risque, c'est même pas un risque, c'est un fait, parce qu'on se retrouve pas souvent dans la reproduction ou l'application d'une pensée établie, liée à un pouvoir établi. On dit qu'il n'y a pas de dictature, on pourrait peut-être un petit peu provocateur, mais on pourrait peut-être parler de dictature de réalisme économique, que je retrouve dans la droite et dans la gauche. Donc en fait, tout le monde, donc du capital, hein, on parle de capital culturel avec Bourdieu, puis ça s'est répandu dans toute la gauche, on ne sort pas de cette logique de réalisme économique. Si on tient un discours qui ne fait pas avec des impératifs économiques, par exemple, on n'est même pas entendu. Oui. Alors je me demande si, en fait, si on pense toujours dans le singulier, on va toujours se retrouver avec ces impératifs économiques qu'on va reproduire. Et peut-être qu'il faut des pensées qui ouvrent, qui doivent réinventer quelque chose d'autre, qui doivent penser des généralités. On sait que le syndicat, c'est un peu provocateur, on sait que les syndicats, on participe, et c'est une pensée anticapitaliste que nous en discutons, on participe encore mieux des fois que des militants de droite, à la perpétuation du système capitaliste dans des aménagements de structures de confort avec des discours, des discours du confort économique. Hein, le but de la vie, c'est être bien. Vous parlez d'ailleurs, M. Maillard, vous voulez justifier votre pays de choses, mais vous parlez tout de suite de budget. Les politiciens parlent essentiellement de budget. Alors je pense que ça fait partie des dictatures de réalisme économique et que voilà, si on reste que dans le singulier, on va nécessairement révéler ça, ce savoir-pouvoir non plus.
Alors, il nous reste exactement 5 minutes. Donc, ce que je vais proposer, c'est que Pierre-Yves Maillard puis Benoît Gaillard répondent et nous concluons. Il n'y aura malheureusement donc plus de temps pour une autre question.
Non, mais ce que vous dites revient à réaffirmer, me permet de réaffirmer ce que j'ai dit au début. L'héritage de la philosophie, c'est la critique. Je suis d'accord avec Benoît, on arrive difficilement, quand on est réellement plongé, à trouver une pensée valable pour tout et qui se déroule comme ça, de manière quasi scientifique et qu'on n'aurait qu'à appliquer. Bon, voilà, on voit bien que ça, manifestement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à mettre en œuvre dans l'action politique une vraie éducation, une vraie formation que, par exemple, à mon avis, on acquiert et que j'ai acquise en philosophie, qu'on peut acquérir dans d'autres formations intellectuelles, mais c'est la critique. C'est justement d'être dans l'action en ne se laissant pas, envahir par toute une série d'idées préconçues, y compris celles que vous dénoncez. Tout à fait, moi je suis prêt à entendre que l'émancipation, je développe que l'émancipation, c'est pas seulement améliorer la situation matérielle, sauf que j'ai été syndicaliste. Quand on est face à quelqu'un qui est à deux doigts de perdre son job à 55 ans, vous pouvez essayer, hein, je vous laisse aller. Je lui ai expliqué que la situation matérielle, c'est un héritage du capitalisme et qu'il faut qu'il s'en libère. Donc c'est difficile à lui faire comprendre. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il lui faut... Parce que le problème, c'est qu'on est libre quand même à peu près avec le ventre plein. Moi, je suis d'avis d'abord assurer les ventres pleins, mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous que l'émancipation, c'est aussi donner des ouvertures vers la culture, vers l'éducation. C'est pour ça que l'idée qu'il y aurait par définition seul 10% d'une classe d'âge qui aurait droit d'être éduqué au-delà de 16 ans m'a toujours paru être une hérésie. Et qu'il faut au contraire donner un accès à l'éducation et à la culture plus large, parce que l'émancipation, elle n'est pas que matérielle. Donc, la philosophie sert à plonger dans l'action politique, dans toute sa complexité, avec quand même comme héritage une capacité à la critique, pour ne pas se laisser, et pour pouvoir laisser la place aux convictions. Moi, je dis, les convictions, le fait de se sentir appartenir à une couche sociale, et de vouloir la défendre, d'avoir des indignations, des convictions, ça c'est la chose la plus démocratique au monde. Tout le monde là, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université, pour avoir des convictions. Et la philosophie m'a servi, parfois à moi, à donner de la légitimité à mes convictions, à me dire que quand on disait que mes convictions étaient illégitimes, j'avais un outil critique qui me permet de dire « Attention, au nom de quoi vous dites que mes convictions profondes, sincères, sont illégitimes ?» Je pouvais ainsi résister à ce bourrage de crâne. Donc dans ce sens-là, la philosophie est émancipatrice en tant qu'elle apprend la critique en travaillant, non pas la critique sur des petites choses, hein, parce qu'il faut la travailler sur des gros textes, sur du lourd, sinon ça ne sert à rien. Donc avec ça, on arrive un peu à se forger un cerveau qui peut résister à ce que vous dites. Au-delà de ça, la pierre de touche de la politique, pour moi, elle est simple. C'est pas combien de fois j'aurais critiqué le capitalisme, c'est combien de fois, et à la fin de 10 ans de lutte, ou 20 ans de lutte, combien de gens du milieu que je crois vouloir défendre, milieu modeste, milieu prolétaire, tout ce qu'on veut, peu importe les termes, mais de ceux qui souffrent et qui sont dominés, combien je leur ai amené de plus dans le frigo et dans la tête. Et voilà, après, chacun sa méthode. Moi, je demande juste qu'on se compare. Quand certains me disent, ouais, toi, tu étais trop comme syndicaliste en sauvant, en améliorant des plans sociaux, en évitant des licenciements, tu fais le jeu du système parce que tu le montres, il n'est pas si violent que ça. Je dis, bah écoutez, faites mieux. Si avec votre méthode, dans 20 ans, on est passé à la société socialiste, bah je m'inclinerai, je tire mon chapeau. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup progressé en attendant, en se croisant les doigts, puis en disant, on se contente de faire des discours purs, puis à la fin, ça va tourner tout seul. S'il y avait pas, des fois, on a même l'impression que c'est méchant social. Ils retardent, on l'entend des fois, en améliorant le sort des ouvriers, ils retarderaient l'avènement. Mais bon sang, il y a quelques pays où il n'y a pas de syndicalistes, où il n'y a personne qui s'occupe de défendre les ouvriers, où on est dans une misère noire, c'est pas pour autant qu'ils sont passés à la société socialiste d'un coup. Donc moi je demande juste qu'on se contente pas au discours, qu'on teste les méthodes et qu'on voit ce qui marche. Et si on fait ça, je crois qu'une méthode d'action...
Deux minutes, vous êtes d'accord
que Benoît est la plus efficace. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Mais je voulais juste que Benoît ait encore l'occasion de s'exprimer.
C'est gentil, je vais aller vite et répondre à ma façon à Vladimir. En l'entendant, j'ai pensé à trois conforts. Je pense qu'il y a le confort du théoricien. C'est un peu celui dont je parlais moi. C'est le théoricien qui se dit voilà les idées, on peut les appliquer, et puis je juge chaque action à l'aune de cette théorie, et puis je dis bien, pas bien, en gros. Il y a le confort du révolutionnaire, qui est de dire en fait, à chaque fois, il faudrait une action beaucoup, beaucoup plus radicale que celle qu'on met en place. Et donc, en réalité, chaque action mesurée à cette aune-là n'est pas une action, c'est un semblant d'action. On fait croire qu'on agit, mais en fait, on n'agit pas. Puis il y a le confort du politique, qui est probablement celui que tu évoquais, qui est de faire à peu près comme on a toujours fait, en tirant les choses un peu d'un côté ou d'un autre, en s'évitant peut-être aussi de remettre en question trop de choses, en assurant sa réélection, parce que, avouons-le, c'est aussi une question.
Et moi, je pense que s'il y a une réponse à apporter à ça, c'est de pratiquer une sorte de politique de l'inconfort. Mais il y a une chose qu'on ne dit jamais à ce sujet-là, et c'est aussi intéressant peut-être effectivement pour M. Dante en tant que représentant de la Corporation des journalistes, on prend toujours pour son grade dans ce genre de discussion, c'est que l'inconfort ne doit pas être l'apanage du politicien. C'est pas que le politicien qui doit se retrouver d'un côté critiqué par les révolutionnaires qui lui disent « votre action n'est pas une action, en fait c'est ridicule », etc., ni par le théoricien seulement qui lui dit « mesurez à l'aune de la théorie ce que vous faites, c'est un pet dans l'eau, c'est rien du tout », ou alors c'est même faux, en fait, en termes de classe, vous agissez pour les dominants, etc. Alors, ok pour l'inconfort du politicien, je m'y soumets avec plaisir chaque fois que je peux, mais mettons les autres dans l'inconfort aussi de temps en temps, et forçons le révolutionnaire, celui qui veut peut-être comme toi à créer des idées nouvelles, je te prends pas du tout à partie personnellement, je base juste sur la figure que tu construisais un peu de celui qui pourrait créer des actions vraiment nouvelles et vraiment radicales. Moi, ce que j'ai jamais vu, c'est des gens qui font ça et puis qui au bout d'un moment acceptent que cette action pour s'incarner doit peut-être mettre un peu de consensus, mais effectivement tirer vers elle l'action politique telle qu'elle se serait déroulée naturellement, mais à un moment donné se mouiller aussi, et le révolutionnaire, l'intellectuel à la pointe de la révolution, signer un papier et dire oui, je soutiens cette solution, je m'y accorde, je l'accepte, et donc n'être pas uniquement en train de dire c'est une idée intermédiaire, moi je garde le monopole des vraies idées. Même chose pour le théoricien, et c'est ce dont je parlais, c'était un peu plus simple que ce qu'évoque Vladimir avec Michel tout à l'heure. Le théoricien, il peut critiquer, c'est utile qu'il soit là pour critiquer, mais bon sang, de temps en temps, qu'il critique, qu'il fasse avancer les choses par sa critique, et puis que lui aussi se retrouve dans l'inconfort, à dire oui, bah ok, alors je comprends que là, concrètement, on pouvait pas faire mieux, et je signe, j'accepte, je vais militer pour cette solution, et puis après, je me retire à nouveau dans ma sphère de théoricien, etc. Et ça, ça nous manque, mais ça manque partout, je vois pas où ça se développe. Peut-être que ça a eu lieu à une époque, peut-être que, je sais pas qui, étaient des figures qui répondaient à cette... Voilà. Et je pense que tant qu'on n'aura pas recréé les communautés, les structures qui le permettent, on ne pourra pas pratiquer cette politique de l'inconfort, mais l'inconfort pour tous.
Bien. Merci beaucoup, Benoît. Bravo. Alors, un grand, grand merci à nos philosophes politiques, nos trois présents, pour avoir à les appeler pour leur réflexion extrêmement stimulante et intéressante et sur la difficulté de porter l'idée socialiste dans un contexte non socialiste qui est celui qui est le nôtre, et je crois qu'ils l'ont fait avec brio et de façon extrêmement intéressante et stimulante. Encore vivement merci, et puis maintenant je vous invite vraiment à quitter la salle rapidement de façon à ce que la suite puisse être préparée. Merci.